système de salvation.
Pourquoi, en quoi vous croyez important pour moi?
Oui, par exemple.
Je ne sais pas, en fait, je ne peux pas, c'est quelque chose qui ne t'explique pas. Hein. C'est vrai que Michel Foucault, c'est certainement l'auteur que j'ai le plus lu pour écrire ce livre. C'est-à-dire, j'ai tout lu, je crois. C'est ce qui m'a permis de comprendre. Moi, ce qui m'intéresse chez Michel Foucault, c'est ce qu'il appelle la gestion différentielle des illégalismes. C'est-à-dire la manière dont des crimes, parce qu'ils sont d'une catégorie de la population, vont être jugés plus sévèrement ou moins sévèrement par le pouvoir. Ça m'intéresse énormément. Comment le pouvoir décide qui va être plus puni qu'un autre, en fonction de la classe sociale, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment le pouvoir décide que vous êtes quelqu'un qui doit être soumis à une juridiction d'exception, ou à la justice d'exception, ou quelqu'un qui doit être soumis à la procédure ordinaire. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Hein. Qui va être soumis à l'état d'urgence, qui va être soumis à une déchéance de nationalité, etc. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. De manière générale, ce qui m'intéresse chez Foucault, c'est la manière dont le pouvoir construit le criminel. Comment un individu devient un ennemi social, un criminel social, un ennemi public. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et puis, il y a un petit aspect de Foucault qui m'a beaucoup intéressé, c'est les examens psychiatriques. Puisque un des étonnements pour moi, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai ouvert les cartons de la Sûreté d'État, j'ai vu des examens psychiatriques de membres de l'OAS, du FLN, d'Action Directe. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces examens? Comment on expertise des psychiatriquement des militants et tous, même des distributeurs de tracts? J'ai trouvé ça très curieux. Et c'est Michel Foucault qui m'a permis de penser à quoi ça servait. Et je pense que ça servait à pathologiser le militantisme, à donner un discours de vérité scientifique hein, sur une parole politique qui est ce sont des fous. Les Mao, c'est des fous. Les autonomistes corses, c'est des fous, etc. Et en réalité, les examens psychiatriques permettent de pathologiser le militantisme, mais aussi de le normaliser. Et ça, Michel Foucault m'a beaucoup permis de le penser. Et après, ce qui m'intéressait, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est comment est-ce que des militants très différents vont utiliser le prétoire. Et là, on voit qu'ils sont très embêtés. Est-ce qu'on utilise une juridiction d'exception, comme l'avait fait Jacques Vergès pendant la guerre d'Algérie? Mais si on fait ça, si on fait des procès politiques, ça veut dire qu'on accepte le jeu du pouvoir. Ça veut dire qu'on accepte cette domination de l'État sur nous. Ou est-ce qu'on va refuser? Alors, on a tout. Par exemple, les maoïstes de la gauche prolétarienne, ils veulent pas aller au... ils restent en prison, ils ne veulent pas se déplacer au tribunal. Voilà. Pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord, ils envoient des lettres. Votre justice est une justice bourgeoise, on ne viendra pas. Voilà. Donc ça, c'est première marque. Après, vous avez par exemple les membres du FLNC qui au début disent... on va y aller, on va faire de grandes déclarations politiques, on ne répondra pas aux questions du juge. Et puis quand même, les peines sont tellement lourdes qu'à la fin, il se dit, bon, on va quand même jouer la carte de « je suis dans mon petit village en Corse, je suis ceci, je suis cela », on va quand même jouer la carte de l'affect. Et donc, on voit très bien toutes les stratégies différentes, hein, comment utiliser le tribunal à des fins politiques. Voilà. Ça m'intéresse.
Victoire du pouvoir quand même, ou possibilité de, encore une fois, de retourner ces dispositifs contre le pouvoir?
Victoire du pouvoir quand même, oui. Parce que la répression, c'est toujours une forme de domination hein, de l'État. Après, il y a des cas, mais ça c'est ce que j'avais montré dans un précédent livre qui m'avait beaucoup intéressé. Les communistes pouvaient choisir d'aller envoyer certains militants en prison et de les faire passer en procès volontairement. Ça c'était les tactiques communistes, hein, de dire on va faire un grand procès pour dénoncer la guerre d'Indochine, donc toi tu vas aller te faire arrêter, là ce serait bien, puis comme t'es connu, ça fera un grand procès. Et ça, les magistrats détestent ça. Et donc la plupart du temps ça marchait pas parce que les gens étaient relâchés. Mais il faut que ça c'est très rigolo. Il y a un cas comme ça d'un dirigeant communiste qui a essayé pendant des années de se faire arrêter, il allait devant les policiers, etc. Et les policiers ne voulaient pas l'arrêter, ils avaient la consigne de ne pas l'arrêter. Bon, c'est extrêmement drôle. Bon,
c'était également la volonté personnelle du général de Gaulle en ce qui concerne ça. À savoir, on ne met pas Jean-Paul Sartre en prison.
Oui, parce qu'il
était bien vu d'ailleurs.
Oui, parce que vous savez que Jean-Paul Sartre a été un grand soutien des Mao. À un moment donné, et il avait dit, mais moi aussi, emprisonnez-moi, puisque vous mettez en prison devant la Cour de sûreté de l'État les vendeurs de la cause du peuple, qui était le journal Mao, je suis directeur de la cause du peuple, donc je devrais venir, moi, à la Cour de sûreté de l'État, donc emprisonnez-moi, venez m'arrêter, je suis prêt. Et évidemment, ça n'a jamais marché. Et c'est ce qu'on voit très bien, et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, notamment aussi pour revenir sur Foucault. Ce qu'on voit très bien quand on travaille sur les archives judiciaires, c'est des petites phrases du genre, ça, ce type de personnes-là ne pas toucher. Les syndicalistes, on ne touche pas. les intellectuels de gauche, on ne touche pas, et ça on le voit très bien dans les archives, ou alors on voit très bien ce procès-là, ça va nous attirer trop de mauvaise publicité. Attention à ce qui peut être dit dans le prétoire, il vaut mieux faire un non-lieu, pas de procès dans ce cas-là. Et ça c'est vraiment très intéressant quand on travaille sur les archives judiciaires, on voit très bien comment des fois le pouvoir recule par crainte de mauvaise publicité.
Victoire ou défaite des intellectuels de gauche?
Alors ça, j'en sais rien du tout. Victoire, toujours, bien sûr. Victoire, évidemment. Victoire des intellectuels de gauche, tout bien.
Alors vous parlez aussi, c'est aussi très directement issu des problématiques foucauldiennes, vous parlez du ciblage des populations. Alors, c'est un terme qui me gêne un tout petit peu dans ses connotations très négatives, évidemment. D'abord, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Et ensuite, si on ne fait pas un ciblage de population, est-ce qu'on n'en arrive pas à la solution actuelle ou à ce renseignement, c'est-à-dire un ciblage généralisé?
Oui, mais moi, ça, je pense qu'il faut y faire attention. Il y a toujours ciblage, pour moi. C'est-à-dire, on va décider quel type de population va être réprimée de telle manière. Par exemple,
être surveillée ou réprimée?
Les deux, c'est pareil pour moi. La surveillance est une forme de répression. Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. Pour moi, la surveillance est une forme de répression. D'ailleurs, ça a toujours été utilisé, hein, l'infiltration, la surveillance, tout ça va ensemble. Mais moi, je trouve que le ciblage, pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que c'est quelque chose qui me semble très important. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on est en train de dire on est dans un état d'urgence permanent. Hein, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines de catégories de la population qui sont beaucoup plus vulnérables face à l'état d'urgence que d'autres. Les activistes radicaux, les musulmans, les populations précaires, etc. Et donc, il faut faire attention, et je pense que, justement, utiliser le mot « ciblage », c'est bien montrer que le pouvoir divise toujours la population entre des individus qu'il faut protéger et au nom desquels des dispositions de sécurité vont être mises en place, on va vous protéger, ne vous inquiétez pas, et puis d'autres parties de la population qui sont beaucoup plus vulnérables face à la police, face à la justice et face à l'administration. Et c'est ce qu'on a bien vu, hein, sous l'état d'urgence, on a vu qui a été perquisitionné et assigné à résidence. Donc moi, j'y tiens en fait.
Police partout, justice nulle part, ça vous parle, ce slogan?
Alors justice nulle part, oui. Justice nulle part, c'est sur police partout aussi. Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les évolutions de la répression aujourd'hui, c'est effectivement qu'à mon avis, on est passé d'une justice d'exception judiciaire, c'est-à-dire menée par des juges, dont on a parlé tout à l'heure, à une justice d'exception policière et administrative. Aujourd'hui, c'est la police et l'administration qui détiennent des pouvoirs répressifs et des pouvoirs judiciaires, d'ailleurs. Et vous voyez bien comment la justice, elle est totalement écartée aujourd'hui de tous les dispositifs. La loi sur le renseignement dont vous avez parlé, on écarte le contrôle du juge judiciaire au profit de l'exécutif. Là, l'état d'urgence, les assignations, les perquisitions administratives ne sont plus contrôlées par le procureur, qui est simplement informé, mais par contre contrôlées par le juge administratif. Donc c'est une forme de justice, mais ce n'est pas l'autorité judiciaire. Donc, justice nulle part, c'est quoi l'histoire? C'est police partout, justice nulle part. Alors, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, justice aujourd'hui, justice policière et administrative plus que justice judiciaire.
La justice administrative, tout de même, offre les mêmes garanties que la justice judiciaire.
Je ne sais pas.
Aujourd'hui,
ça se discute. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas.
C'est un problème juridique, on ne va pas.
Ouais, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais.
C'est-à-dire que, en tout cas, le Conseil d'État, notamment à l'occasion de l'état d'urgence, a tout de même vu aussi ses exigences. Alors, ça m'amène à un... Si, le Conseil d'État.
Oui.
Alors, que les tribunaux administratifs puissent ne pas suivre, c'est vrai dans un premier temps, je pense pas dans un second, ils ont tout intérêt à se conformer à la jurisprudence du Conseil d'État. Donc, il y avait des tribunaux administratifs au début qui avaient dit qu'il n'y a pas urgence, donc le référé liberté ne peut pas fonctionner. Le Conseil d'État les a assez sèchement rappelés à l'évidence juridique. Il y a eu approfondissement du contrôle exercé sur le bien fondé des mesures d'assignation à résidence, etc. Bon, je ne crois pas que l'évidence soit entièrement négative, mais enfin, ce n'est peut-être pas le sujet de ce soir. Mais alors, il y a une chose qui me paraît s'imposer à la lecture de votre ouvrage pour un juriste, c'est à quoi ça sert le droit pour vous. Est-ce que ce sont des alibis qui sont donnés au pouvoir à travers cette détail dont on a parlé lors des travaux de la loi 63, ou ça va plus loin, ça peut aller plus loin? Est-ce que concrètement vous avez l'impression que le droit sert à quelque chose, et à quoi, et dans quelle mesure?
Ben, le droit, en réalité, pour moi, il est détourné du pouvoir politique, souvent, pour réprimer des populations cibles. Mais par contre, ce qui me semble important par rapport à votre question, c'est que, malgré tout, je dois être une grande naïve ou une grande optimiste, je ne sais pas, je crois qu'on est quand même toujours dans un état de droit. Précisément parce qu'il y a des contrôles, comme vous le disiez, hein, notamment au Conseil d'État, peut-être le Conseil constitutionnel, etc. Donc, à quoi ça? Beaucoup moins. Et parce qu'il y a des mobilisations citoyennes. Donc à quoi sert le droit? Ça dépend de quel point de vue on se place. Il ne faut pas être trop marxiste non plus, ou avoir trop de lecture en termes pas de lutte des classes, mais en tout cas de... Ouais. Je pense quand même que le droit sert à certaines catégories de la population plus qu'à d'autres.
Alors ce sera ma dernière question, avant qu'on puisse un peu discuter avec la salle. Vous parlez très peu, une fois, sauf erreur de ma part, de la Convention européenne des droits de l'homme, à travers les garanties du procès équitable. Et d'une manière plus générale, est-ce que vous ne pensez pas que le droit de la Convention européenne des droits de l'homme a actuellement, par exemple, pour ces questions de surveillance, etc., un impact qui, évidemment, c'est une hypothèse, ne pouvait pas se produire à l'époque de Gaulle, pour une raison très simple, c'est que de Gaulle rappeler, refuser tout regard extérieur sur le comportement des autorités françaises, et de toute façon, avec la guerre d'Algérie, la sûreté de l'État, c'était un peu difficile de faire partie à la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais. On avait heureusement plus du tout là. Est-ce que vous pensez que c'est une donnée à intégrer, ou bien ça vous paraît dérisoire?
Moi, je crois que c'est très important, hein. Ça peut faire partie tout à fait des contre-pouvoirs, justement, aux visées d'un exécutif qui aurait tendance à multiplier les dispositifs d'exception. Vous l'avez dit, le général de Gaulle avait refusé de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'il trouvait que c'était des ingérences insupportables dans la manière dont il voulait rendre justice ou faire ses affaires. Maintenant, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé suite aux attentats. Quand le gouvernement a écrit une lettre pour dire qu'il allait déroger à certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont des dérogations qui sont prévues, si je m'abuse, hein, dans cette même.
Oui, mais qui sont quand même très limitées.
Qui sont quand même très limitées. Mais moi,
le gouvernement, effectivement, a tenté de faire passer le message selon lequel, à partir du moment où il avait écrit au secrétaire général du Conseil de l'Europe, tout allait très bien, il n'y avait pas de problème. En réalité, la Cour européenne des droits de l'homme exerce son contrôle tout à fait normalement, simplement en tenant compte du contexte. Donc, nous ne pouvons prévoir ce que sera la décision de la Cour européenne des droits de l'homme le jour des affaires liées à l'état d'urgence liées à droit de l'homme.
D'ailleurs, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a quelques jours, il y a une déclaration du Comité des droits de l'homme européen qui s'est inquiété des dérives de l'état d'urgence, je crois.
Oui,
oui. Oui. Notamment par le commissaire aux droits de l'homme, il y a eu un certain nombre d'alarmes qui ont été très clairement émises.
Ouais.
Mais même sur le plan juridictionnel, la Cour européenne des droits de l'homme exerce un contrôle assez faible sur la mise en vigueur des états d'exception, mais en revanche, elle continue d'exiger que les dérogations apportées à l'exercice des droits garantis par la Convention soient strictement proportionnées.
Ouais.
Donc, le gouvernement pourrait avoir de mauvaises surprises de ce côté-là, peut-être.
Moi, j'y crois. C'est-à-dire que moi, je crois qu'au contraire, il faut appuyer et favoriser tous ces organismes-là, toutes ces institutions-là qui peuvent être des contre-pouvoirs et freiner des dispositifs d'exception. Ouais.
Merci. Alors, il y a certainement des questions dans la salle.
J'aurais voulu avoir votre avis sur l'année 2015, de janvier et de novembre. Pour moi, mais j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez, c'est plus du terrorisme, c'est de l'assassinat en masse, quand même très un grand maître. Alors, je pense quand même que c'est un petit peu de déception.
D'exception ?
Oui, pour moi. Oui.
Alors, ce sont des événements exceptionnels.
Voilà.
Et exceptionnellement meurtriers. C'est-à-dire, en plus, avec évidemment des modalités d'action terroriste nouvelles, en tout cas, qui sont décrites comme telles, avec des attentats kamikazes, un nombre de morts quasiment jamais atteint. Est-ce que c'est de l'assassinat de masse et non pas du terrorisme ? Qu'est-ce que vous appelez terrorisme ? Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est le terrorisme.
C'est trop vague.
C'est trop vague. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que ce sont des assassinats à l'aveugle qui n'ont aucun objectif politique. Ça, il faut faire très attention, c'est pour ça que j'insistais lourdement, quand on dit les gens sont fous, on ne règle pas la question. Et il me semble aussi que quand on dit que ce sont des assassins de masse, ça aussi élude un petit peu la question politique. Parce que je crois, vous voyez, qu'on a tendance à occulter que toutes ces questions-là ont des incidences politiques et aussi des causes politiques. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci pour votre question.
Je voudrais revenir sur la garde à vue, la GAV, de la Cour de sûreté de l'État. En même temps, c'est une expérience que j'ai vécue en été 68, puisque j'ai été parmi ceux militants d'extrême gauche comme Krivine, inculpé pour reconstitution de ligue dissoute, c'était les JCR. Et j'ai, donc à l'époque, il me semble, parce que vous avez donné des chiffres différents. Il me semble qu'en 68, en tout cas, la GAV, maximum, c'était 10 jours. J'en ai personnellement fait 7 ici à Strasbourg, avant de faire 8 jours. Oui, avant de faire 8 jours à la prison de la santé et d'être enfin libéré, parce que bon, il n'y a pas eu de suite.
Non, donc,
voilà. Mais je voulais m'assurer du chiffre, parce que. Et donc, j'ai été déféré devant le juge Vigouroux. Vous avez dû voir son dossier. Oui. Et avec comme avocat Maître Jouffa. Oui. Une deuxième chose, s'il vous plaît, concernant la psychiatrie, parce que ce que vous avez dit là, ça m'a.
Vous êtes expertisé, si oui, vous m'intéressez beaucoup.
Bon, d'accord.
Pas de chance,
il n'a pas
été.
Oui. Non. Pour la psychiatrie, ça m'a rappelé que dans les années 70, il y avait un usage très fort de la psychiatrie en Union soviétique. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas comme ça...
Non. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient... Les magistrats de la Cour de sûreté d'État n'étaient pas obligés de faire des examens psychiatriques. Pas du tout. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils font ça ? En réalité, ils voulaient tellement normaliser leur juridiction, la rendre normale, qu'ils faisaient comme les juges des cours d'assises. Hein. Et donc, ils disaient, ben, nous aussi, on fait des dossiers de personnalité comme en cours d'assises, donc on fait des examens psychiatriques. Ce qui était une aberration sur les cas de militants. Mais je pense que ça n'a aucun rapport avec l'Union soviétique. Non. Sauf à dire que les communistes étaient fous. Ça, c'est encore autre chose.
Est-ce que c'est obligatoire, maintenant, l'expertise ?
Oui, dans certains cas de crime, oui.
Non, profite un peu.
Oui,
c'est
vrai.
Donc la GAV, c'était bien 10 jours en 68.
C'était 10 jours maximum, voilà. Mais en 68,
oui.
Mais elle n'était jamais de 6 jours. Elle n'était jamais de 10 jours. La plupart étaient de 6 jours.
7 jours.
Là, vous avez la dose.
Un peu en bleu pour ça.
Y a-t-il d'autres questions ? Oui.
Vous avez dit très clairement que le gouvernement veut toujours cantonner le pouvoir judiciaire pour éviter l'aléa. Je me suis demandé d'où cette thèse, est-ce un présupposé sur le plan de votre méthodologie ou est-ce un résultat ou, c'est quoi ?
Eh ben non, c'est pas du tout un présupposé idéologique ou politique de ma part, ce sont des faits. C'est-à-dire que les juridictions d'exception, qui ont toujours été, pour moi, c'est central dans l'institution, dans notre système pénal français, notre histoire judiciaire aussi, c'est pour contourner l'autorité judiciaire. Par exemple, vous voyez, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les débats à l'intérieur de l'exécutif pour savoir est-ce qu'on va mettre ces militants devant les tribunaux correctionnels des cobassistes ou une juridiction d'exception. Et en général, quand on veut punir plus sévèrement et être un peu plus sûr du résultat, on va déférer des militants devant les tribunaux militaires ou des juridictions d'exception. Ça, c'est, à mon avis, c'est une preuve, en tout cas, de cette volonté de toujours contourner l'autorité judiciaire. Et de la même manière, choisir des juges soi-même en tant que chef de l'État, par exemple, ou en tant que ministre de la Justice, c'est une preuve évidente de cette volonté-là. Pourquoi vous pensiez à quoi, en fait ?
Pour moi, c'était c'était une pensée très présente dans votre ouvrage, et je me suis demandé si c'est pour le cadre que vous avez choisi de la méthodologie du sujet. Vous l'avez dit vous-même maintenant que ça concerne la justice d'exception, là je suis tout à fait d'accord, mais dans sa généralité, j'étais un peu étonné de cette thèse.
Dans la généralité, non, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans la justice ordinaire, on peut se dire que les gouvernements peuvent être déçus de certains verdicts et que parfois ils sont contrariés par certaines décisions. Voilà.
C'est la leçon optimiste là aussi de votre livre, ouais. C'est que le pire n'est jamais sûr et qu'il y a un aléa judiciaire.
Oui, ça c'est très important.
Un aléa judiciaire. Alors qu'il n'y a pas d'aléa administratif,
ni policier.
Ni policier, encore pas policier, ou militaire. Sauf évidemment sous l'OS, il y a eu un fort aléa militaire, mais en dehors de cette hypothèse-là, on peut dire qu'il n'y a pas d'aléa. Mais il y en a un devant la juridiction administrative, en revanche. Donc ça peut relancer l'aléa d'une manière que, là encore, les gouvernants ne prévoient peut-être pas.
Je voudrais juste rebondir sur ça en vous donnant un exemple qui me semble important. Oui, je vous ai vu, monsieur Offrand. Moi, j'avais beaucoup discuté, je ne sais pas si vous connaissez Henri Allègre, qui était le journaliste d'Algérie républicaine, et je l'avais rencontré, on avait beaucoup parlé de la guerre d'Algérie, et vous savez, il avait été interné au camp de Lodi, qui était un camp d'internement, justement, état d'urgence, assignation en résidence, et donc trop de gens assignés en résidence, donc création de camp. 10 centres d'hébergement et en réalité camp d'internement. Et Henri Allègre m'avait dit, vous savez, quand on était dans un camp d'internement, il ne tardait qu'une chose, c'est d'être en prison et de voir un juge. Et ça m'a beaucoup marqué. Parce que la justice, même la plus répressive, c'est pas l'administration, c'est pas l'armée et c'est pas la police. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur toujours cet aléa et effectivement le pouvoir judiciaire, malgré tout ce qu'on peut en dire, hein, ce sera jamais l'administration, ce sera jamais la police et ce sera jamais l'armée. Voilà. Monsieur ? Un assassinat, bien sûr, est un assassinat, enfin, mais ce qu'il y a, il me semble, de dangereux, c'est de ne plus discuter les causes de ces assassinats et de ne plus discuter les contextes dans lesquels ils ont été commis. Parce que ça empêche de voir les raisons, les intentions, les mobiles des acteurs. Et là, je crois qu'on perd quelque chose de très précieux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la psychiatrie, parce qu'elle me semble détourner le regard vers des motivations ou des intentions dont on ne veut pas entendre parler. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce qui me semble.
Une occultation d'une analyse politique d'une situation.
Oui. Mais vous pensez quoi, en fait ?
Je pense en particulier à quelque chose qui est en train d'arriver, je trouvais, depuis un certain temps, d'amnistie. Je pense en particulier à celui qui glisse la mort et l'assassin de la terre.
D'après, vous pensez à Ivan Colonna. Et pourquoi vous parlez d'Ivan Colonna ?
Exemple, parce que finalement, il vient des...
Parce que je m'appelle que l'actionniste. Vous n'avez pas tort, c'est pas italien, évidemment. Bien sûr. Bien sûr, mais votre question c'est quoi ? Est-ce que je suis pour l'amnistie de Ivan Colonna ?
Je pense de voir si vous faites une hiérarchie en fonction du ménalisme sociopolitique que vous avez dans les cas d'aller dans la société. Est-ce que vous faites, comment dire, vous atténuez un certain nombre de choses parce que, effectivement, c'est une situation que je vous ai donné. La psychiatrisation est une autre façon également d'atténuer.
Exactement. Et bien justement, je crois que. C'est aussi mon métier, hein. Je suis une politiste, une historienne, mais aussi une politiste, et j'ai aussi des idées politiques comme tout le monde, et je crois effectivement qu'il faudrait réintroduire un peu de logique politique dans les regards qu'on porte sur des événements passés. Et je pense qu'on évacue trop la question politique d'actes qui sont, comme vous le dites, des assassinats de gens, du terrorisme, même si je n'aime pas tous ces grands mots qui ne veulent rien dire. Mais en tout cas, je crois qu'il faudrait un peu plus se focaliser sur les contextes, les intentions des acteurs et pourquoi est-ce qu'ils ont commis ces actes. Et je crois que refuser de poser la question du pourquoi, eh ben, c'est pas la bonne solution. Parce que vous voyez, aujourd'hui, j'en finirai par là, tout le monde me dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, je crois qu'au lieu de faire du tout sécuritaire, il faudrait faire de la politique. Parce que le tout sécuritaire, c'est pas de la politique. C'est de la sécurité. C'est pas de la politique. Voilà, je finirai par là.
Merci beaucoup. Il me reste au public.